I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Christophe Famechon, qui est directeur de la relation client chez Fnac Darty. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexis.
Donc c'est un plaisir de t'avoir, on va parler de relations clients, je sais que tu es chez Fnac Darty, donc un groupe français marquant. Comment t'en es arrivé à bosser chez Fnac Darty ?
Alors écoute, ça fait une quinzaine d'années que je bosse chez Fnac Darty, mais il faut savoir que j'ai 25 ans derrière moi de service client. En France et à l'étranger, dans des groupes internationaux. J'ai travaillé en Amérique du Sud, j'ai travaillé pour une entreprise américaine, j'ai travaillé à l'époque d'AOL, donc d'Internet. Et je suis arrivé en 2008 chez Darty pour m'occuper du service client de leur MVNO de l'époque.
Bien, donc une belle longévité, déjà plus de 15 ans, quasiment. Exactement. 15 ans de chez Fnac Darty. Alors Fnac Darty, ce qui est intéressant, donc c'est une boîte vraiment française, culturellement française, donc ça c'est important, une bonne connaissance des clients français et qui a su évoluer, je crois, ces 10 dernières années par rapport aussi à toute cette concurrence qui s'est accrue sur l'e-commerce.
Alors exactement, c'est des vieilles enseignes des années 50, deux belles enseignes qui ont accompagné des générations de consommateurs avec beaucoup d'approches souvent novatrices et rupturistes. Et puis on a été obligé de s'associer, on a été obligé de se liguer parce que on a été attaqué de toutes parts par les pure players,
par Jeff Bezos.
Voilà, exactement. Allez, exactement.
Nommons-le.
Et puis par toutes les entreprises de distribution low cost qui sont arrivées. Voilà. Donc il a fallu se réinventer, il a fallu s'allier pour pouvoir survivre et puis développer de nouvelles propositions de valeur.
Voilà, et donc toi, tu es vraiment à l'endroit de la relation client, ça c'est vraiment ton activité. Donc il y a un terme qui est ma clé, hein, la relation client. Comment tu l'as définie d'ailleurs en quelques mots, cette relation cliente dont tu t'occupes ?
Mon périmètre, c'est à la fois 1500 personnes qui vont travailler, qui vont accueillir les clients en avant-vente, mais qui vont également faire du service après-vente, également fournir, et c'est encore plus le cas côté Darty, de l'assistance technique. Parce qu'il faut savoir que Fnac et Darty, la proposition de valeur, c'est pas seulement vendre des produits, mais c'est aussi d'accompagner les consommateurs sur la livraison, sur la réparation et sur le service après-vente. Donc, on est vraiment dans une logique d'accompagnement de nos consommateurs avant la vente et après la vente.
Donc, c'est vraiment tout le cycle, quoi.
Tout le cycle, exactement.
De vente avant,
et
avant.
C'est pour ça qu'ils viennent chez nous, parce que finalement, c'est ce qui fait la différence. Mmh. Acheter sur Internet en trois clics, c'est facile, mais quand on a un problème, on s'adresse à qui ? Et nous, on est vraiment des entreprises qui sommes là pour donner de la réassurance aux consommateurs.
Alors, les dernières années, il y a eu pas mal d'évolutions. Donc, je sais que la période Covid, évidemment, elle a été un peu spécifique.
Hein. Rupturiste.
Alors, je crois que tu me disais off micro, au début, les gens achetaient beaucoup de frigos, je crois, pendant le Covid, c'est ça ?
Alors, effectivement, nous, on a eu un petit peu de nez puisque la digitalisation de notre activité a commencé il y a une vingtaine d'années. On l'a accéléré à partir de 2018, on a modernisé notre outil informatique, notre logistique. Et finalement, alors évidemment, comme tout le monde, a été pris au dépourvu en mars 2020 quand les magasins ont fermé. Mais en fait, Alexis, on était prêt. Mmh. On était prêt pour switcher en mode e-commerce. Oui. Et effectivement, c'est presque une approche sociologique des choses. On a vu, au gré des confinements et au gré de l'utilisation des produits, beaucoup de choses qui ont évolué dans l'achat des produits et dans la consommation.
Parce que ce qui est intéressant, ce que tu dis, le mouvement sur le digital, finalement, a commencé assez tôt chez Fnac Darty, autour de 2005-2010.
Exactement.
Et aujourd'hui, on est quasiment à 20-25% quand même de part de marché.
On est à 26%, c'est-à-dire qu'on est à plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le web. On était deuxième e-commerce en français en 2021. Donc, tu vois, c'est pour des vieilles enseignes, on a su se réinventer et finalement accompagner nos consommateurs avec les changements de...
Comment t'expliques qu'il y a eu cette vista dès 2005 de prendre le twist ? Parce que ce n'est pas le cas de tous les groupes d'avoir pris cette transfo.
Hein. Tu, 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 tu sais, quand tu n'as pas le choix, quand tu es au pied du mur, quand tu sais que c'est une condition
de survie. Ils l'ont
senti,
ils ont vu que ça a été du très lourd arrivé en face. Quoi.
Il fallait se réinventer. Alors, on s'est réinventé avec nos atouts. Mmh. Hein, on est là aussi pour vendre sur le web, mais notre force, c'est les parcours croisés, les parcours hybrides, les parcours figitales, comme on en parlait. C'est-à-dire cette capacité à choisir sur le net et aller chercher son produit en magasin.
Okay.
Aller en magasin et puis pouvoir commander sur le web et être livré chez soi. Donc, tous ces parcours croisés, c'est aussi une des forces. Aujourd'hui, en moins d'une heure, là, tu peux acheter tout de suite n'importe quel produit à la Fnac et aller le chercher en moins d'une heure. Qui est capable de faire ça aujourd'hui avec un maillage de 900 magasins sur l'intégralité du territoire français? Peu d'enseignes.
Alors Darty, il est arrivé pour renforcer l'offre, c'est ça, au niveau de Fnac. Donc maintenant, vous avez une offre très complète qui couvre l'électroménager, l'high-tech, même ça va jusqu'aux voitures électriques et jusqu'à la mobilité. Ben donc c'est devenu vraiment tout l'art de la maison. Enfin, ça s'adapte à chaque usager.
Même encore au-delà, puisqu'effectivement, nous, on s'adapte aux habitudes de consommation des Français. Mais on a ouvert également via la marketplace. C'est-à-dire qu'on peut acheter aussi d'autres produits sur la marketplace qui marchent très, très bien. Pourquoi ? Parce que la marketplace, c'est aussi la possibilité d'acheter, de faire des très bonnes affaires. Et à chaque fois, avec le facteur de réassurance de Fnac ou de Darty. Donc, c'est aussi un très bon enjeu qu'on a appliqué sur notre stratégie de place de marché.
Alors, on voulait t'inviter, Christophe, parce que c'est vraiment comment la relation client elle se réinvente à l'ère du numérique et du digital. C'est de ça dont on va parler maintenant. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tout ça est bien, bien rodé chez vous. Donc, il y a les chatbots, il y a du social selling. Les vendeurs se mettent maintenant à la modération sur les réseaux sociaux. Tu peux parler maintenant de comment ça évolue, finalement, cette relation client à l'ère digitale?
Alors, elle a évolué et je vais te faire une confidence. Hein. Elle a évolué. On a fait beaucoup de tests. On a beaucoup testé de choses, on s'est planté. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2019, on a investi massivement sur la relation client digitale. On avait moins de 12% des contacts en 2019 qui étaient digitaux. Le reste, c'était du téléphone quand on était à distance. Et on a beaucoup modernisé nos outils pour pouvoir piloter cette relation client à distance. Aujourd'hui, sur Fnac, on a plus de 56% des contacts qui sont digitalisés. Essentiellement, du réseau social, de la messagerie instantanée et du chat.
C'est énorme ça. C'est-à-dire, donc l'équipe digitale, c'est combien de personnes au sein de Fnac Darty?
Au global, le service client, c'est 1500 personnes.
Quand même.
Donc tu vois, donc on est sur des... Et encore une fois, il ne faut pas oublier que notre objectif, c'est la réassurance du client. On n'est pas seulement là pour vendre des produits. On est là pour accompagner le consommateur.
C'est la
prévente,
c'est le suivi, c'est réassurer.
Et c'est pour ça qu'ils viennent chez nous.
Donc c'est du, comme on dit, du always on. C'est ce que m'avait appris Samsung. Ça ne s'arrête jamais, il faut toujours modérer, commenter. Et ça, je crois que sur le social, c'est devenu vraiment du social listening. Vendeurs se mettent à repérer les commentaires des clients, etc.
Alors aujourd'hui, on a plusieurs intégrations. On a déjà, depuis mai 2020, on a la possibilité sur le site Fnac ou Darty, n'importe quel consommateur peut aller sur le site Fnac ou Darty et parler à un vendeur en magasin avec de la visio. On a plus de 300 000 sessions. On a évidemment des équipes qui sont là pour repérer évidemment tous les avis, s'assurer, mettre en place on a des alertes pour pouvoir recontacter les clients. On recontacte systématiquement tous les détracteurs dès qu'on en trouve. Donc il y a toute une mécanique qui est mise en place parce que le consommateur est prêt à accepter les problèmes qu'on peut avoir. On peut avoir des problèmes de produits, on peut avoir des problèmes de logistique. En revanche, ce qu'il n'accepte pas, c'est ne pas avoir de réponse quand il a besoin d'aide immédiatement.
Ah voilà. Donc ça, là, c'est clé de répondre tout de suite. Quoi.
Exactement, que ça soit en magasin ou à distance, on essaie d'être là. Et effectivement, le Covid a amplifié des tendances de fond. Et la première, c'est que le consommateur a pris le pouvoir sur les enseignes comme les nôtres grâce aux réseaux sociaux.
Ben oui,
et nous, on a choisi d'y répondre systématiquement, c'est-à-dire d'ouvrir. Aujourd'hui, on peut nous contacter sur Instagram, Twitter, Facebook, Messenger, toutes les messageries instantanées, c'est disponible hein, sur Google. On peut également rentrer en contact avec nous. On a décidé de tout ouvrir pour pouvoir mieux répondre et mieux engager le consommateur, mais également nos collaborateurs. Parce que je vais te dire, aujourd'hui, quand on répond à un client qui a plusieurs centaines ou plusieurs milliers de followers sur Twitter ou sur Facebook, je veux dire que mes collaborateurs, ils vont demander l'avis d'un collègue pour savoir si la réponse est adéquate. C'est-à-dire qu'on a un niveau de responsabilité individuelle et collective qui est beaucoup plus important. Ce métier, si tu veux, de service client est devenu un métier d'ambassadeur, voire d'influenceur de la marque. Okay. Et ça, ça, ça renforce aussi la fierté interne et le sens de la responsabilité.
Alors malgré tout ce mouvement très fort sur le numérique, je crois que toi tu crois beaucoup en l'humain. On sait que recruter des très bons vendeurs, c'est pas si facile.
C'est vrai.
Et tu peux parler des quelques qualités toi qui te semblent indispensables finalement à ce métier.
Alors on essaie de recruter des gens qui soient passionnés par les produits. C'est très important, c'est pour ça que les gens viennent chez nous. Et on, comme je le dis à mes équipes, on aime les gens qui aiment les gens. Parce qu'effectivement, ce qui fait la différence, j'en suis intimement persuadé, c'est notre capacité à influencer positivement grâce à une interaction sympathique, positive, agréable, positive, attentionnée, sincère, généreuse à chaque interaction. Alors, je ne dis pas qu'on fait tout bien, mais en tout cas, c'est vraiment la ligne de conduite. Et plus l'économie est digitalisée, plus le contact humain doit être valorisé, sympathique, chaleureux et surtout généreux.
Ah oui, donc c'est vraiment cette générosité qui est si importante. Alors, tu m'en parlais aussi tout à l'heure, vraiment cette notion de service client. On dit souvent les Anglo-Saxons, les Américains sont en numéro un, etc. Mais toi, tu dis oui, les Français quand même, ils ont leur part à prendre dans ce métier. Il y a des webhelps, puis il y a des grands acteurs de la relation client qui sont importants. Comment tu trouves qu'on peut avoir notre place à prendre sur ce sujet de la relation client, les Français ?
Alors, je suis à la fois un amoureux de la culture du service à l'américaine, avec un niveau de process hyper bien défini, avec des standards de discours. Mais je dois dire que nous, en France, on n'a pas à rougir. D'ailleurs, les principaux acteurs mondiaux, les poids lourds mondiaux du call center, ce sont des Français. Tu parlais de Webel, mais Téléperformance, Cytel, ce sont des entreprises françaises. Voilà. On a également un grand nombre d'intellectuels qui ont marqué les esprits. Alors moi, je cite souvent quelqu'un que j'ai côtoyé, qui est le professeur Horowitz, qui a créé Châteauforme et qui est pour moi une des pointures mondiales de l'expérience pionniers. Et du marketing relationnel.
Qu'est-ce qui t'a enseigné les 2-3 points clés, tu trouves, de ce qui défend
là ? Alors, une exigence absolue de l'expérience client. Le sens du détail, le sens de l'attention, le sens de la générosité, le sens de la profusion. Pour ceux qui connaissent l'enseigne Châteauforme, il a réussi à mettre dedans tous les ingrédients d'un parcours chaleureux, bienveillant, attentionné et généreux.
Alors c'est marrant ton truc, ça me fait penser à la phrase, je la cite tout le temps, du patron de Starbucks, qui disait « under promise, over deliver ».
Exactement,
je sais pas si c'est
la clé.
Ça aussi, tu es là-dedans. Tu Mais trouves que sûr. C'est cette allé avec ce que tu disais sur la profusion. Starbucks peut être un cas d'école sur, en tout cas, peut-être sur le lancement d'une expérience très complète. Et donc c'est cette expérience complète, ça peut être un lieu, ça peut être un service, ça peut être un produit, mais il faut qu'il y ait tous les ingrédients, on dirait.
Voilà, et nous on bénéficie de cette histoire fantastique de Fnac et d'Arty, plus de 70 ans d'âge, et ce que je te disais aussi, et je pense que tous les consommateurs et toutes les personnes qui nous écoutent le savent, aujourd'hui le contrat de confiance, ça a plus de 50 ans, ça fête ses 50 ans cette année, mais finalement c'est une marque à qui on a confiance d'Arty, on ouvre les portes de Darty, d'un livreur Darty, d'un réparateur Darty, je dirais on se pose pas de questions. Dans une société où on s'enferme, où on se referme, où on se protège, nous Darty on rentre partout et on est toujours bien accueillis.
Ça, comment ça s'est construit, sans faire toute l'historique, mais les 2-3 grands basiques de la confiance, parce que c'est vrai que c'est des marques qui ont créé beaucoup de proximité avec les Français.
Les frères Darty, il faut savoir que ce sont des survivants de la Shoah. Qui ont d'abord dans les
comme Simone Veil
qui ont repris leur métier de confection avec une promesse à l'époque qui était la qualité du sur-mesure, le prix de la confection. Donc ils ont été toujours dans le sur-mesure finalement avec des bons prix et ils ont appliqué ça par hasard à l'électroménager, puisqu'ils ont repris, cette activité un peu par hasard. Et ça a été les premiers à se dire, moi, je vais vendre des frigos, des télés, mais je vais les installer aussi. Mais si c'est en panne, je vais les réparer. Et je vais trouver le modèle économique pour que ça fonctionne. C'est un modèle unique au monde. Et en 1973, grâce à un publicitaire assez malin.
C'était qui ? C'était Séguéla ?
Je ne sais plus. Ah là là,
on
va en retrouver ça.
Okay.
Ils ont construit le contrat de confiance. Voilà, qui est un terme antinomique, le contrat de confiance, alors que la confiance n'a pas besoin de contrat. Et ce contrat de confiance qui a bercé des générations de consommateurs, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est une marque de réassurance.
C'est vrai. C'est un basique, c'est rentré dans l'inconscient collectif.
Et ça, c'est un trésor. Donc moi, je ne suis, et mes équipes, on n'est que les héritiers de ces gens qui ont réussi à imposer ça de manière tout à fait naturelle chez les consommateurs
donc
français.
Donc le rouge pour Darty, le vert pour la Fnac,
le jaune,
les jaunes, ouais. Jaune, pardon,
jaune et noir.
Jaune. Je disais un peu de vert parce que si on est dans l'environnemental et le RSE un petit
exactement.
Peu. Exactement. Et Fnac, vraiment, c'est cet ancrage dans la culture. Hein. C'est ça qui est fort pour Fnac, je trouve. C'est ce lien au livre aussi, à la lecture, à l'illettrisme aussi. Il y a eu des engagements.
Exactement. Je dirais dire que la mission, alors on n'appelait pas ça la mission dans les années 50, mais enfin l'objectif de la FNAC dans les années 50 et 60, c'était d'éradiquer l'illettrisme dans cette France d'après-guerre. Donc tu vois, cette promesse, cet impact sociétal, comme on dit maintenant, puisqu'on parle de RSE, mais si finalement la FNAC, ça fait plus de 60 ans qu'on fait du RSE, tu vois, sans le proclamer. Donc ça, c'est vraiment dans les gènes, la culture. Le livre, c'est dans les gènes de cette société.
Par rapport au RSE, je sais qu'il y a un truc qui te tient à cœur, c'est vraiment cet aspect aussi des cycles de vie des produits. La durabilité des produits, c'est quelque chose qui est en train de beaucoup évoluer. Et vous vous positionnez sur des produits de seconde vie. Ça c'est une tendance de fond, tu penses ?
Alors, c'est une tendance véritablement de fond. Alors, je ne dis pas que ça couvre l'ensemble du périmètre de nos clients, mais une part non, vraiment significative. Et donc, on a construit une offre de durabilité et de services par abonnement avec réparation limitée qu'on appelle Dartimax. On bénéficie de 50 ans de réparation et de SAV, donc on connaît les bons produits, les produits durables, les produits sur lesquels on sait qu'on a des pièces détachées. On a dans les magasins Darty le choix durable. Mmh. Donc on s'engage sur des produits qui ne vont pas tomber en panne, en tout cas avec des taux de panne très faibles.
Ça, c'est totalement nouveau parce qu'on le sait, les gens achètent moins de mobiles, c'est devenu très cher. Donc maintenant, il y a une manière de consommer qui est totalement différente.
Qui est différente et qui s'impose. Et tu l'as dit sur les mobiles, notre offre seconde vie, Darty Occasion, Fnac seconde vie, cartonne. Pourquoi ? Parce que, un, on remet en vente des produits qui sont quasiment neufs, mmh, avec une garantie derrière. Et finalement, sur beaucoup de produits, tu n'as pas besoin d'avoir le
neuf,
le dernier cri.
D'accord. Ça augmente de plus en plus cette part d'achat, c'est énorme.
Énormément.
D'accord.
Donc c'est effectivement.
Et c'est pas réservé à la mode, hein, parce que souvent on en parle peut-être un peu plus dans la mode. Ça devient très fort dans l'high-tech et dans la.
Et l'impact de la réparation d'un point de vue bilan RSE est très très fort. Très très fort.
Bon, bah ça c'est super pour votre promesse évidemment et votre offre. Alors, on va aller un petit peu dans la prospective, parce qu'il y a quelques jours, il y avait VivaTech, voilà, où je crois que tu n'as pas pu y aller cette année.
Cette année, je n'ai pas pu y aller.
Tu l'avais déjà fait, je crois.
Oui.
Alors, deux, trois tendances un peu lourdes, tu trouves, de la relation client à l'ère, je dirais, post-numérique. On va forcément parler un peu d'IA. Les basiques que tu trouves intéressantes sur l'IA en prospective pour aider la relation client, toi ?
Alors, l'IA, je dirais que nous, on a beaucoup d'initiatives dans le domaine de l'IA, et en particulier l'IA générative et de l'analyse de la data. Encore une fois, c'est en complément d'une promesse qui doit être de réassurance, d'efficacité, mmh, avec une forte composante humaine. Ça, c'est notre. D'accord. Pense que c'est ce qui doit faire la différence.
Ça reste plutôt un outil, comme dans plein de secteurs.
Exactement.
Quoi.
Ça doit rester un outil pour mettre à disposition des informations normées, des informations des informations normées et de manière ultra rapide à nos consommateurs. Mmh. Ça peut, là, on a des tests qui sont hyper concluants pour intégrer l'IA générative sur nos bases de connaissances techniques, parce qu'il y a certains consommateurs qui veulent se débrouiller tout seuls pour mieux utiliser leurs produits, voire les réparer. Mmh. Et donc, pourquoi réserver ces bases de connaissances à nos techniciens si on peut les offrir à nos clients, ceux qui le veulent ? Donc, on a des tests très intéressants là-dessus. Et puis, on était en train de le tester également pour mieux appréhender le niveau de satisfaction de nos clients. Parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir analyser les conversations, qu'elles soient en direct ou qu'elles soient sur le web, pour évaluer le niveau de satisfaction des consommateurs avec notre enseigne,
ça, c'est très
sans leur demander.
Ça, c'est l'IA générative.
Alors ça, on travaille dessus, c'est du travail de data analyst en branchant effectivement des technologies de speech analytics pour essayer de décrypter à la fois le niveau de satisfaction et plus dur, le niveau d'émotion de nos clients.
Ça, j'adore ça. Ça fait penser au film Her avec Joaquin Phoenix, où tu vas vraiment analyser le ton de la voix et finalement le client, il te donne la réponse dans la manière dont il interagit avec toi. Quoi.
Exactement. Et je pense qu'on en a tous un petit peu marre de ces enquêtes de satisfaction à chaud, à froid, de tous les. Qui parfois, c'est bien, hein, on a 40 sondes finalement de satisfaction client, donc on mesure extrêmement fort. Mais je pense qu'il faut qu'on soit capable d'anticiper et de savoir en temps réel le niveau d'émotion positive. Hein. Il y a la satisfaction, mais il y a, ce qui est important, c'est le niveau d'émotion du client, parce que ça va déterminer aussi son niveau d'engagement vis-à-vis de la marque.
C'est le ROI et le ROE. Il y a le Return on Emotions qui est de plus en plus clair. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le timbre, la manière d'écrire un message. Tout ça donne une vraie indication sur la manière dont le client se positionne par rapport à une
marque. Parce que tant qu'il nous parle, le client, finalement, c'est qu'il est finalement engagé avec la marque, même, si c'est, même quand il n'est pas content. Ce qui est dramatique, c'est quand il ne nous parle plus.
Ah oui, ça, c'est plus
donc, c'est pour ça qu'on ouvre tous les canaux. On veut qu'il nous parle et on veut lui offrir cette possibilité de s'exprimer vis-à-vis de nous. Parce qu'on veut cette possibilité de le réengager et d'essayer de trouver des solutions, quelle que soit la situation dans laquelle il est.
Donc la clé, ça va être aussi du data science pour vraiment déjà tout analyser termes de vos clients existants, les conversations. On va apprendre déjà plein de trucs avec l'existant, j'imagine.
Exactement. On a un champ d'investigation. Finalement, le service client se réinvente complètement avec l'IA, avec l'analyse de la data.
En tout cas, c'est on voit. Hein. Quelques autres tendances que tu aimerais nous partager ou des points clés que tu trouves sur la relation client ?
Écoute, cette perspective sur l'analyse de la data, je pense qu'il est, phénoménal.
Et sans fin, quoi.
Voilà. Et puis, ce qui est très intéressant, je pense, c'est que ce métier-là, qui il y a quelques années était vu comme un centre de coût, il faut bien répondre à nos clients, est devenu aujourd'hui au cœur de la stratégie d'entreprise. Il n'y a pas de e-commerce, il n'y a pas d'influence de marque préféré des Français si derrière il n'y a pas une interaction. Donc toutes les marques, toutes s'intéressent à la relation client.
C'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans le cas de la Fnac, parce que vous n'êtes pas rattaché ni au market ni au sales, c'est vraiment un département relation client. Oui. Ça c'est assez moderne, c'est pas le cas dans toutes les marques et tous les distributeurs.
Non, c'est vrai.
Donc ça peut-être aussi allouer une importance particulière dans les entreprises pour qu'il y ait comme un vrai service, une vraie culture.
D'ailleurs, tous les patrons de relation client. Et pas seulement moi, on a des perspectives finalement pour nous et nos équipes qui sont beaucoup plus larges. Pourquoi ? Parce qu'on a cette capacité d'analyse de la data, on est capable d'améliorer les parcours clients.
Finalement, il se rattache un peu au produit dans l'univers de la tech.
On est capable de repérer
le product, comme on dit.
Exactement.
Le product owner dans l'univers de la tech, finalement, il est en relation, il est dans le multifacteur entre le produit, la relation client. Christophe, on arrive à la dernière partie du podcast. Petite question plus culturelle, alors, comme on est dans l'univers de la Fnac et de Darty, que je pose aux différents invités, pardon, c'est tes goûts en termes de musique, ciné, film, création, expo. Enfin voilà, ça peut être un film qui t'a beaucoup marqué ces derniers temps.
Alors le film qui m'a beaucoup marqué, parce que je trouve qu'il reprend de manière fabuleuse l'univers du livre, et c'est souvent assez rare, c'est À l'Ouest, rien de nouveau. Un film qui a été primé, je crois, aux derniers Oscars, un film de Netflix, et qui raconte l'histoire d'un soldat allemand pendant la Première Guerre mondiale. Le film est un
petit bijou, quoi.
Est un bijou pacifiste, puisqu'il retrace tellement bien l'univers de la guerre qu'on en sort forcément choqué. Il est extrêmement bien fait, et quand on a lu le livre, on peut souvent être déçu.
Tu avais lu le bouquin aussi?
Ah oui, il y a une vingtaine d'années, ou trentaine d'années, j'ai lu le bouquin qui m'avait arraché les larmes. Et là, quand tu vois le livre, cette émotion est aussi forte, et j'ai trouvé ça formidable.
Ça donne envie.
Ouais,
le pitches bien. C'est-à-dire qu'on va vivre l'histoire à travers des yeux de ce soldat allemand,
de ce jeune de 18 ans. Ouais, exactement, qui va, comme tous les soldats, les jeunes soldats, qui va la fleur au fusil et qui petit à petit s'enferme dans cette horreur terrible avec le seul espoir d'essayer de survivre un jour de plus.
Ok, donc vraiment un peu le pendant du film 1917 que j'avais beaucoup aimé de Sam Mendes, qui est un excellent film aussi. D'ailleurs, qui me fait penser à un autre film que j'avais adoré, je sais pas si Le Labyrinthe du Silence.
Ah, je l'ai pas vu.
Excellent film sur avant que l'Allemagne bascule en Allemagne nazie, et qui est un excellent film. Alors, la toute dernière question que je pose aussi aux invités, c'est le conseil, c'est plus la transmission, le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut travailler dans l'univers de la relation client.
Je pense que c'est un bon choix de travailler dans l'univers de la relation client. Ce n'est pas forcément des métiers qui sont aussi bien vus ou aussi nobles que ceux du marketing. Et pourtant, moi, je viens de recruter une de mes directrices qui vient du marketing. Donc, ces métiers attirent de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'on est au cœur des problématiques de management de grosses organisations. Des problématiques de gestion de changement, en particulier avec la digitalisation, des problématiques liées à l'intelligence artificielle et à la data, et surtout à cette capacité à influencer positivement les marques. Donc, je pense qu'il faut s'y jeter à cœur perdu avec deux choses. Le souci de l'humain, ça, c'est très important. Et puis, le souci du détail et du travail bien fait. Parce que finalement, c'est ce que demandent nos consommateurs.
Donc, tout ça pour amener vraiment la satisfaction du client au final. Merci beaucoup, Christophe. C'était un vrai plaisir de t'avoir sur ce podcast 100% Relations Clients. Merci à toi.
Merci, Alexis.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.